Je vais sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est en
France.
C'est
pas.
Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez le veto.
Vous voulez sortir?
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis Marie et je suis accompagnée de Samuel. Salut Samuel.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, on reçoit donc l'association étudiante Tour Éloquence qui organise ce vendredi 15 novembre le procès fictif de Cléopâtre à l'hôtel de ville de Tours. Avec nous, Agathe. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Anaïs Gaël, donc, qui jouera Cléopâtre.
Bonjour.
Marc, qui jouera donc à l'avocat de l'accusation.
Bonjour.
Et Marie-Lou, qui joue la sœur de Cléopâtre.
Bonjour.
Alors, on va faire plus ample connaissance avec toute l'équipe. Alors, Agathe, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais comme étude, quel est ton rôle dans l'association ? C'est la même pour tout le reste.
Alors oui, alors moi, je m'appelle Agathe, du coup, et je suis la présidente de Tour Éloquence depuis mars. Donc, j'ai un rôle un petit peu à part du procès parce que je n'incarne pas de rôle cette fois-ci. Et sinon, à côté de ça, je fais des études de droit. Mais voilà, on est un peu pluridisciplinaire dans l'association.
Donc, je m'appelle Anaïs Gaël, je suis étudiante en droit aussi. Et je suis responsable des interventions extérieures à Tour Éloquence.
Alors, moi, c'est Marie-Lou. Je ne suis pas membre du bureau de Tour Éloquence. Je suis juste oratrice pour le procès de Cléopâtre, du coup. Et donc, voilà, j'interprète la sœur de Cléopâtre, Arsinoé. Et je fais du droit. Ouais.
Moi, je m'appelle Marc. C'est ma première année à Tour Éloquence depuis septembre. Je suis en première année de droit. Et j'ai l'occasion donc d'interpréter le rôle d'avocat de l'accusation pendant ce premier procès. Premier procès que je fais. Et j'ai pas de membre, je ne suis pas membre du bureau non plus. Voilà.
Agathe, est-ce que tu peux présenter un petit peu Tour Éloquence, nous raconter sa petite histoire et dans quel but elle a été créée ?
Bien sûr, avec grand plaisir, j'adore cette histoire. du coup, Tour Éloquence a été créé il y a 7 ans par un groupe d'amis, ils étaient 7 je crois, qui voulaient juste aider les étudiants à prendre la parole en public, parce que c'est quand même assez important dans la vie de tous les jours, voilà, que ce soit dans la communication avec les autres ou même pour nos jobs, etc. Donc ça fait 7 ans que ça existe, l'association a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Aujourd'hui, on fait on a nos permanences tous les mercredis de 18h à 20h avec des petits exercices qui permettent aux étudiants, et pas que d'ailleurs, on accueille tout le monde, et à des retraités également, de venir s'exercer sur toutes les facettes de l'art oratoire. Donc, que ce soit l'improvisation ou la gestion de son stress, exprimer des émotions, voilà. Et en plus, on fait ça de manière... Enfin, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut venir. Pas de pression. Enfin, voilà, c'est assez tranquille. À côté de ça, on a un événement assez majeur qui sont, du coup, nos procès fictifs. Il y en a deux dans l'année. L'année dernière, par exemple, il y a eu celui de Peter Pan et Pablo Escobar. Là, on commence avec le magnifique procès de Cléopâtre. Et enfin, nos deux activités qui sont un peu moins connues, mais qui vraiment sont très, très appréciées par nos adhérents. On a les concours et les championnats et également les interventions extérieures. Donc, on intervient auprès d'autres structures, des collèges, des lycées, la Croix-Rouge. Également les masters, on va aller voir un master, le master 2 juriste procès-procédure à la faculté de droit. Et vraiment, on est juste là pour aider tout le monde à combattre notamment son stress, à construire son identité d'orateur et tout ça dans la plus grande bienveillance.
De ce que j'ai entendu, vous êtes issu de plusieurs filières, certains ne font même pas partie du bureau de Tour Éloquence. Est-ce que c'est compliqué de s'organiser, de préparer les répétitions? Les nombreuses sorties, les nombreux événements que vous organisez, est-ce que c'est...
Vous voulez que j'y aille ? En vrai, ils ont choisi quand même une horaire assez libre pour beaucoup de gens, même si certains ont aidé, donc travaux dirigés, au niveau des permanences. Sinon, après, par exemple, dans le cadre du procès fictif, on organise des réunions entre parties civiles, entre défense. Et donc ça, c'est à nous de voir entre nous. Généralement, on arrive à se voir, on arrive à préparer le truc, parce que les études, ça prend du temps, mais on arrive à libérer des heures quand même. Après, pour les membres du bureau, comment ça se passe ?
Donc, pour les membres du bureau, eh bien, ça demande un certain sacrifice, que ce soit pour organiser des événements, pour faire des championnats, également pour préparer les interventions extérieures, notamment Paul, dont je suis responsable. Donc effectivement, ça demande de s'organiser, de prendre du temps et de sacrifier certaines choses. Mais quand on aime l'art oratoire et que c'est une chose qui nous tient à cœur, eh bien, il n'y a pas de souci.
Et alors ici, vous êtes tous en droit, majoritairement en droit.
Oui. Ici, oui.
Oh, oui. De quelle filière sont issus les membres de l'association ?
Alors, on en a un peu de toutes les facs. On a des matheux, des matheux, des biologistes. On a des personnes qui viennent de médecine. On a des personnes qui viennent de sociaux, des langues. On a des personnes qui viennent de l'IUT aussi. Donc vraiment, on est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, j'oublie des filières apparemment.
Aussi et surtout, il y a des personnes qui sont dans le monde du travail.
Oui, il y en a pas mal. Vraiment, on accueille tout le monde parce que ce qui est bien à Tour Éloquence, c'est qu'on n'a pas de professeurs et on apprend des uns et des autres à travers des échanges. Donc c'est vraiment ce qui nous permet c'est vraiment l'échange qui nous permet d'apprendre et c'est ce qui rend l'association très bienveillante et assez chill en fait.
Ok. Donc il n'y a pas de profil type de personnes qui viennent au sein de l'entreprise ou de l'association.
De l'entreprise.
Alors, on n'est pas encore au stade de l'entreprise. Ouais. Mais non du tout. Et en plus, justement, les différences de chacun permettent de vraiment faire une force. Parce que c'est-à-dire que là où les personnes vont avoir des faiblesses, d'autres vont pouvoir venir les combler. Donc franchement, c'est très très beau quand même comme système.
Et est-ce qu'il y a des étudiants qui, dès la première année, souhaitent développer donc leur capacité à s'exprimer et qui vous rejoignent ?
On a un parfait exemple avec nous aujourd'hui. C'est Marc qui est en première année.
Ouais, je connaissais l'asso déjà depuis l'année dernière avec des contacts. Je faisais déjà de l'éloquence avant au sein de mon lycée. Mais là, rejoindre une association carrément au niveau de la ville, liée à la fac de droit, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, le format procès fictif, je permets d'en reparler quand même. C'est quand même incroyable. C'est un mélange entre un peu de droit, c'est pas le principal, mais de l'art oratoire, un peu un côté théâtral au final, et le tout avec de l'improvisation. Et en fait, c'est pour tout public et j'ai trouvé ça génial en tant que spectateur. Et donc, de le vivre en tant qu'acteur, ça va être hyper intéressant.
Après, moi, si je peux me permettre, j'ai commencé du coup en L1 aussi. Et ça m'a vachement aidé d'intégrer Tour Éloquence parce que je ne suis pas du tout originaire de Tours. Et le fait d'arriver dans une nouvelle ville très loin de ma région natale, voilà, ça nous permet d'avoir un pied dans la faculté, dans l'université et de rencontrer de nouvelles personnes issues de tout horizon. Donc franchement, on accueille vraiment tout le monde. Quoi.
Et alors attention, question. Oui, tu voulais prendre la parole
Même si en arrivant en L1, on n'est pas directement dans les équipes de championnat, même si on n'est pas directement participant à un procès, c'est pas grave. Et c'est là tout l'intérêt de cette association, c'est qu'on peut arriver en L1, peu importe l'année, et ne pas avoir les compétences, ne pas s'y connaître du tout. Et petit à petit, au fil des années, au fil des mois, on peut atteindre cette compétence pour faire des championnats, des procès, etc.
Mais en fait, c'est juste que le niveau d'études ne nous intéresse pas. C'est vraiment ouais. L'individu en lui-même qui... Bah déjà, s'il vient, c'est qu'il est intéressé par l'éloquence. Et c'est l'individu en lui-même qui nous intéresse avec ses forces et ses faiblesses. Je tiens vraiment à le rappeler, c'est qu'on accepte les gens tels qu'ils sont.
Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une bonne éloquence ?
Je pense que c'est important pour pouvoir être écouté aussi. Enfin, par exemple, je vais donner un exemple stupide, mais j'avais une prof au lycée. C'était une prof d'histoire. Elle avait une éloquence qui n'était pas terrible et personne ne l'écoutait en cours. Et on ne la respectait pas, en fait. C'est pas cool, il ne faut pas faire ça.
Mais, l'exemple.
Et c'est vrai que si elle avait eu une éloquence, si elle, peut-être, sûrement si elle avait travaillé son éloquence aussi, on l'aurait écoutée et on l'aurait peut-être un peu plus respectée.
Ça va de pair avec le charisme pour vous ?
Oh.
Oui.
Mmh. Oh, le charisme, ça peut être inné, je dirais. Alors que l'éloquence, c'est direct. Plus quelque chose qui se travaille pour moi. Non.
Ah, et vous pensez pas que le charisme puisse se travailler aussi ?
Si, mais je dirais que le charisme, ça peut se travailler, mais pour certaines personnes, c'est vraiment inné. Alors que l'éloquence, pour moi, c'est plus tu le travailles à force d'écouter des discours et des choses comme ça. Pour moi, c'est moins inné.
Bah, je suis pas sûre parce que, on va dire que être charismatique peut aider à prendre une place quand on veut prendre la parole. Ça monte, enfin, ça attire tout de suite le regard sur nous. Mais je pense que l'élément majeur, c'est vraiment la confiance en nous. Et c'est là l'élément vraiment à travailler finalement. C'est avoir confiance en nous, ça nous permet de prendre la parole plus facilement et aussi attirer le regard et l'écoute. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment une question de charisme, parce que en soi tout peut se travailler et voilà, tout peut s'améliorer finalement.
Bah après il y en a, ils ont pas confiance en eux et pourtant ils ont du charisme.
Ah ouais. Je vais réfléchir.
Je vois quelqu'un qui a joué Capitaine Crochet l'année dernière au côté de Peter Pan, par exemple, avait un très bon charisme. Oui. Et il n'avait pas forcément confiance en soi. Donc
C'est pas faux.
Non, mais quand même, l'aptitude à convaincre avec le pouvoir de la parole, ça relève un peu quand même d'une prestance de charisme en soi. C'est-à-dire que tu vas convaincre et il n'y a pas que ta voix qui va compter, il y a aussi tout ce qui va autour, ta prestance corporelle. Ouais. Et tout ça, ça crée le charisme.
C'est des tous. Oui, non, mais en fait, effectivement, c'est un tout. Être un orateur, c'est pas simplement utiliser les mots au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment c'est faire passer un message. Je pense que initialement, l'art oratoire est là pour pour la communication, et c'est quand même l'une des meilleures, on va dire, une meilleure arme pour pouvoir remplir nos défis et oui, juste participer à ce qui nous tient à cœur, quoi.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Agathe. Pour moi, l'éloquence, c'est important parce que ça permet d'être écouté. Et on ne peut pas être... on ne peut pas dire des choses qui nous tiennent à cœur. On ne peut pas exprimer son idée ou défendre une chose si l'on n'est pas écouté.
Effectivement. On va avancer un peu au-delà de ce débat sur le charisme.
on est avec des gens d'éloquence.
Effectivement,
donc ça prend
effectivement.
Un peu de temps.
vous perpétuez un art qui existe depuis des siècles. Aujourd'hui, l'art oratoire a-t-il évolué ?
L'art oratoire a évolué effectivement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de. On peut voir l'art oratoire dans plusieurs domaines, plusieurs disciplines et de plusieurs manières. Donc effectivement, ça a évolué et je vais me permettre de donner un exemple que j'aime énormément, c'est Kerry James. Kerry James qui est un très bon rappeur, qui fait des textes exceptionnels, qui m'inspire énormément. Et son art, la manière dont il aborde l'art oratoire, c'est assez spécial et c'est différent de ce qu'on pouvait voir il y a quelques temps. Et je pense que ça représente une très belle avancée, une très belle évolution et la beauté de l'art oratoire.
Je te rejoins à travers le rap et le slam, par exemple. On a davantage que dans la chanson un peu classique cet aspect-là d'appuyer sur les mots, des punchlines puissantes.
Oui.
Et à la fois, du coup, dans le fond et dans la forme, on va avoir ce côté-là qui s'apparente à de l'art oratoire, en fait. Et des rappeurs éloquents, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, et donc au final, ça représente une évolution de l'art oratoire.
Donc on va pouvoir y revenir un peu plus en profondeur. On va faire une première pause musicale donc sur le 99.5 sur Radio Campus Tours. Que va-t-on écouter, Samuel ?
Alors on va écouter Night Coffee de Snug et de Mondo Loops. Vous venez d'écouter Net Coffee de Snug et Mondo Loops sur Radio Campus Tours et il est temps à présent de nous intéresser de plus près à cet événement qu'est le procès fictif de Cléopâtre. Alors je rappelle que nous sommes avec Agathe, Anaïs Gaël, Marc et Marie-Lou de Tours Éloquence qui organise cette soirée, le 15 novembre à l'hôtel de ville de Tours.
Et donc c'est pas la première fois que vous organisez un procès fictif, vous avez même mis en ligne le déroulé du procès de Charles de Gaulle qui a eu lieu en 2019. Je vous propose d'en écouter un extrait pour s'immerger un peu dans ce que peut être Tour Éloquence et ce genre d'événement lors de procès fictifs de personnalités historiques.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Tour Éloquence et d'avoir pris place à bord de cet amphithéâtre pour un voyage dans l'histoire de la Ve République. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables durant la durée de ce vol. Vous allez assister au premier procès fictif de l'année. Et ce procès, c'est celui du père de la Constitution, le grand procès du général de Gaulle. Ce soir, vous l'entendrez bien sûr se défendre corps et âme pour la grandeur de la France. Se défendre face à plusieurs chefs d'accusation. Crimes de guerre en Algérie, haute trahison, appel à l'insurrection ou coup d'État. La question de ce soir, De Gaulle est-il coupable ou innocent?
Ce soir, nous, les enfants de la Ve République, allons juger celui qui a créé la société dans laquelle nous avons grandi, mais surtout dans laquelle nous sommes nés. Oscar Wilde disait que lorsqu'ils naissent, les enfants regardent leurs parents et les admirent. Lorsqu'ils grandissent, ils les jugent et parfois, ils leur pardonnent. Ce soir, mesdames et messieurs les jurés, il vous revient la lourde responsabilité de juger et de pardonner ou non les actes commis par Charles de Gaulle.
Monsieur Salan, ma première question est simple. Est-ce que votre témoignage aujourd'hui devant nous est lié au fait que le général de Gaulle, que vous disiez pourtant bien connaître...
J'avais dit ça.
Oui.
Je n'étais pas gaulliste. Je n'ai pas prétendu le connaître.
Mais si vous avez passé du temps avec vous, c'est que vous connaissez. Pas de souci là-dessus.
Vous disiez le connaître. Veuillez parler plus fort.
Vous disiez le connaître, et pour autant, vous vous êtes senti comme surpris. Alors que pour autant, c'était de la politique qu'il faisait. Vous savez qu'en politique, des amis, on en a très peu.
Il ne s'agit pas de politique lorsqu'on est militaire, monsieur. Il s'agit d'engagement. Il s'agit d'une famille. Il s'agit de croire que l'on défend son pays. Ça n'a rien à voir avec la politique.
Donc défendre pays de son pays jusqu'à un coup d'État, pour vous, c'est toujours le défendre.
Ah non. Je n'ai pas fait un coup d'État.
J'ai non,
fait
vous avez
une insurrection, monsieur. Une insurrection pour laquelle j'ai été déjà condamné.
Ah, mais je n'ai jamais dit le contraire. Monsieur. Je n'ai jamais dit que vous n'aviez pas été condamné. Je sais que vous avez été condamné, et tant mieux.
Et une différence, monsieur, ce n'est pas mon coup d'État, c'est notre insurrection. Je n'ai pas été seul, comme l'accusé. Je n'ai pas prétendu instaurer un nouveau régime tourné vers ma personne. Non, je n'ai fait que défendre l'intégrité du territoire, chose qui s'était déjà produite en 1940 et chose que l'on se doit lorsque l'on est un militaire.
Maître Juguère, avez-vous des questions?
Madame, maître, pardon. Il a été dit de vous que vous auriez suivi De Gaulle jusqu'en enfer. Considérez-vous que c'est vrai?
Bien sûr, j'aime passionnément mon époux, avec sincérité, et je lui ai été toujours d'une fidélité sans faille.
N'a-t-il pas mis l'enfer sur terre en quelques endroits?
Absolument pas.
Donc les harkis n'ont pas subi d'enfer, à votre sens?
Je ne connais aucun harki et je ne me permettrai pas de me prononcer sur des propos politiques étant donné...
Veuillez parler plus fort, s'il vous plaît.
Je ne me prononcerai pas sur des propos politiques étant donné que je ne fais pas de politique.
Donc la mort des gens est uniquement politique?
Je n'ai pas dit cela, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Vous êtes ensuite envoyé à la retraite et n'avez jamais exercé de fonction militaire depuis. Alors pourquoi vous faites-vous appeler par un grade
que vous n'aviez simplement qu'à titre temporaire par intérim.
Monsieur le procureur, vous voyez, le monde est fait de plusieurs conflits, et le temps également. Et si je suis nommé général, c'est parce que, comme vous le dites, je l'ai été. Et je crois également que si on parle de manière morale et militaire, n'ai-je pas écrit un livre au lendemain de la Première Guerre mondiale dans lequel j'ai étayé toutes les failles de l'armée française? Oui ou non l'ai-je fait?
Donc quand on écrit un livre, on peut devenir général?
Non, mais qu'on écrit un livre et qu'après, nos dirigeants ne l'ont pas lu, ne l'ont pas appliqué et que l'armée nazie vient nous déborder de cette manière, c'est peut-être la preuve que si je n'étais pas général, en tout cas j'avais bien vu la lecture historique de la France, monsieur. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de respecter mon grade. Parce que nous ne sommes pas là pour faire le procès de mon grade.
Monsieur, je respecterai le grade que vous avez officiellement,
merci,
qui n'est pas celui de général.
Bah, appelez-moi monsieur le président, dans
monsieur
ce
cas. Monsieur le colonel, dans ce cas.
Monsieur le président.
Maître Jucquet, vous avez la parole.
La parole de Diderot me semble tout à fait appropriée pour ce procès. On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et on ne boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Peut-être alors est-ce flatteur de ne voir en De Gaulle qu'une figure héroïque, en faisant abstraction de ses choix préjudiciables. Mais lorsque des êtres humains meurent, souffrent, et se trouve réduit au silence constant, il nous faut savoir entrouvrir la bouche pour boire la vérité. Alors oui, elle sera amère, cette vérité, mais nous sommes ici pour accepter de l'avoir enfin. Comment construire une identité dans un pays qui nous déteste et sans celui qui prétendait nous aimer, qui prétendait nous protéger? Vous avez créé des orphelins, des personnes vouées à l'errance dans leur propre pays, alors que eux, les harkis, étaient là pour vous, pour combattre sous vos ordres.
C'était un extrait du procès fictif de Charles de Gaulle que Tour Éloquence a réalisé en 2019 à l'Hôtel de Ville. On y entend Raoul Salan, Yvonne de Gaulle, sa femme, le procureur ainsi que les avocats. C'est assez impressionnant, encore plus qu'on a la vidéo sous les yeux. On voit que tout est bien rodé, tout est parfait. Comment est-ce qu'on organise et comment se prépare ce genre d'exercice ?
Beaucoup de réunions, logiquement. Déjà, pour commencer, avant de participer au procès, on fait des sélections. Donc logiquement, c'est les meilleurs orateurs qui sont pris. Et après, donc, les rôles sont attribués en fonction du niveau d'orateur, on va dire. Et après, on est réunis en équipe. Donc là, avec Marc, on est dans les parties civiles. Mmh. Et on fait des réunions pour pouvoir voir quel sera l'arc pour attaquer Cléopâtre, dans notre cas. Et pour Anaïs, du coup, c'est plutôt défendre du coup Cléopâtre.
Se défendre,
carrément. Mais c'est beaucoup de préparation. On écrit nos textes ou on n'écrit pas, on improvise. Mais on se prépare beaucoup pour connaître nos personnages, pour ne pas être surpris finalement.
Oui, ça c'est vraiment le point de vue du coup d'un orateur. Mais au niveau d'un procès fictif, on va dire qu'il y a vraiment deux catégories. Donc il y a la catégorie avec les acteurs, au-delà d'être des orateurs, sont carrément des acteurs parce qu'ils doivent complètement changer leur identité et prendre la place de quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est quand même un sacré travail. Mais on a aussi toute une partie de logistique, la logistique qui est particulièrement conséquente pour ce procès. Il faut réfléchir par exemple au décor, à la lumière, au costume, à la mise en scène, au micro. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Par exemple, ce procès, on a choisi le thème en juillet. On a un chef de logistique qui fait partie de nos adhérents et qui réfléchit à la mise en scène de ce spectacle. Donc voilà, il y a vraiment une partie, on va dire, un peu plus dans l'ombre qui va permettre de rendre ce spectacle beau. Et l'interprétation, la vie du spectacle est permise grâce aux orateurs.
Sans trop spoiler, mais on veut quand même en savoir un petit peu plus, Anaïs Gaël, sur quels actes Cléopâtre va-t-elle être jugée ?
T'as fait quoi ?
Absolument aucun, puisque Cléopâtre
est innocente. Bah oui.
Bien sûr.
Non, t'as les chefs d'accusation, officiels de Cléopâtre.
Je pense qu'on peut demander à l'avocat des parties civiles.
Alors, est-ce que je les sors ?
Tu peux tout révéler, non, pas tous.
Je les révèle pas, on est d'accord.
Ceux qui ont été...
Oui, Cléopâtre, elle a trahi. Cléopâtre Et Cléopâtre, elle a tout fait pour ses propres intérêts, pour son pouvoir, quitte à encore une fois trahir. Est-ce que tu pourrais en rajouter un peu? Parce que t'es quand même accusée. Voilà. T'es quand même témoin, pardon.
Oui, bah, je pense qu'on ne va pas en dire trop. Trahir et tuer, c'est le plus important, je pense.
C'est adorable. Non, honnêtement, c'est magnifique.
En fait, j'ai pas envie d'en dire trop. Venez vendredi. Venez vendredi.
De voir des personnes qui se permettent d'accuser Cléopâtre de certaines choses alors qu'il n'y a absolument aucune preuve. Encore une fois, la présomption d'innocence. Monsieur, madame.
Il faut faut quand même expliquer que du coup, c'est beaucoup d'improvisation.
Oui.
C'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout se donner les chefs d'accusation et donner leur axe d'accusation ou de défense.
Et oui.
Mais entre autres, Cléopâtre, elle est accusée d'homicide, enfin de meurtre.
Elle a tué beaucoup de gens.
Voilà. Tu ne peux pas affirmer une trahison, chose alors que son procès n'a pas encore lieu.
Non, ce sont les chefs d'accusation pour l'instant.
C'est une horrible personne.
Cléopâtre est libre et elle peut reposer en paix pour l'instant.
Oui, j'allais poser une question à Marc. Oui. Qui va intervenir dans ce procès et qui est opposé à Cléopâtre?
Alors, du coup, à ma droite directement, Arsinoé 4, donc qui est sa sœur. On va avoir Octavia Minor également. Et également Octave. Donc Octave qui devait hériter du trône et Octavia Minor qui s'est vue trahir littéralement par Cléopâtre étant donné qu'elle lui aurait volé totalement son amant. Donc on est face à
puisque
trois chefs d'accusation différents.
Puisque les personnes peuvent être volées apparemment.
Oui c'est ça. Non mais on est face à trois témoins différents pour trois axes différents où attaquer la traîtresse qui est Cléopâtre. Mais ça va être un grand spectacle puisqu'on va évidemment la faire condamner.
Et donc y a-t-il beaucoup de témoins?
Ah, oui.
Est-ce que vous avez un nombre pour quantifier à peu près
ce... Oui. Alors pour ce procès il y a 7 témoins. Donc normalement il y en a 6. Simplement cette année il y a une petite différence puisqu'il y a un rôle qui sera joué par 2 personnes. Donc Lindsay et Sacha qui vont jouer les rôles de Charmiane et Iras qui étaient les servantes très proches et très fidèles de Cléopâtre.
Et si le procès il se fait avec le contexte juridique et social actuel, est-ce que Cléopâtre aura moins de mal à se défendre en tant que femme et est-ce qu'elle va échapper à tout un tas d'accusations misogynes et infondées?
Je pense. Alors moi, je n'ai pas participé à la préparation des chefs d'accusation, mais je pense que elle sera sûrement, j'espère, moins victime de misogynie. Par contre, en ce qui concerne les meurtres, les homicides, les tentatives d'assassinat, etc.
Que personne n'a jamais pu prouver, je tiens à le rappeler.
Je n'ai pas participé à l'organisation des chefs d'accusation. Mais j'espère que dans la société dans laquelle on vit actuellement, elle aurait été victime de moins de misogynie. Par contre, pour le reste, bon, je pense qu'on aurait trouvé... d'autres chefs d'accusation assez importants.
Il n'y a pas que la misogynie.
Voilà.
Il y a d'autres trucs.
J'aimerais juste parler d'une chose qui est que lors du procès, c'est donc un tribunal romain qui va juger Cléopâtre. Et donc forcément, on va aborder la chose avec le point de vue de l'époque. Et c'est vrai que Cléopâtre n'était pas appréciée du tout à Rome. Et c'est surtout... Et parce que c'est une femme, que c'était une femme qui avait du pouvoir, que c'était une femme qui se battait pour son pays. Et
on a un début de procès, en fait, actuellement.
Mais j'entends des choses, des choses.
Complètement fausse,
je ne peux pas l'exposer.
Manipulatrice.
Venez vendredi, venez vendredi.
Je me permets d'enchaîner un petit peu. Vous avez déjà organisé donc, des soirées comme celle-ci à l'Hôtel de Ville. C'est plutôt une chance de pouvoir le faire dans un lieu comme celui-ci. Comment vous y avez accès?
Waouh. On s'y prend à l'avance, en fait, bah, comme tout le monde, on est obligé de réserver l'hôtel de ville. Habituellement, on fait ça à la salle Télème, mais comme cette salle est en travaux, on a essayé de trouver une autre salle. On a eu la chance de pouvoir s'y prendre dès juillet, même la salle était réservée au mois de mai pour être sûr d'organiser ce spectacle à l'hôtel de ville. Et on a énormément de chance de pouvoir accéder à la salle des fêtes, en fait, de l'hôtel de ville. Donc avec des décors absolument merveilleux et on a extrêmement hâte de voir tout ça.
Dans le public, on retrouve beaucoup d'étudiants qui viennent passer la soirée avec vous.
On a énormément d'étudiants. Je pense que la moitié du public doit être des étudiants. Mais encore une fois, on a beaucoup de public extérieur en fait, à tout ça, qui sont juste là, qui sont souvent intéressés par le thème. Mais effectivement, on accueille tout le monde, j'ai envie de dire, de 7 à 77 ans, pour reprendre une petite chanson. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement juridique, et c'est la compréhension est accessible à tous.
Voilà. Est-ce que ça vous arrive de travailler avec des étudiants en histoire, hein, lorsque vous élaborez le procès d'une personnalité historique, ou en tant que brillants étudiants en droit, vous faites des recherches d'une qualité absolument formidable?
Deuxième option. beaucoup de documentaires sur Netflix, sur YouTube, plein de belles choses comme ça. C'est vrai que je crois on n'a pas fait appel à des historiens. Enfin, peut-être Marc, mais...
Non. Pas du tout. Bah, documentation à fond. Donc, ouais, films, vidéos, archives d'époque, quand on en a. Des pages, des trucs sur Internet, des trucs sur papier, pour pouvoir accuser cette merveilleuse Cléopâtre.
Pas merveilleuse.
Par contre, c'est vrai qu'on a des experts de l'Égypte antique. Voilà, Tour éloquent, c'est sympa. De l'Égypte antique, qui, pour le coup, sont... Alors, forcément très très intéressé par l'histoire. On a des historiens aussi, alors qui sont venus me voir moi, mais malheureusement je participe pas au procès, qui étaient là vraiment prêts à donner de la documentation. On a pour le bien-être du procès, on a dû restreindre les sources parce que sinon c'était trop compliqué pour les orateurs de s'y retrouver, parce que l'organisation, en fait, les orateurs ont un mois seulement pour trouver tous les chefs d'accusation, ce qui est très compliqué. Mais dans un monde absolument merveilleux, on aurait toute une équipe d'historiens autour des orateurs pour pouvoir les aider.
Nous, aujourd'hui, on vous reçoit à la radio, mais en dehors, comment est-ce que vous vous y prenez pour la promotion d'un événement comme celui-ci ?
Okay. Alors, on passe par divers canaux. On a donc... Tout simplement, on passe dans les différentes facultés auprès des étudiants, on fait des passages en amphi. On fait beaucoup de pubs grâce à l'université sur leurs réseaux sociaux. On met des petites affiches un petit peu partout, au niveau de la place du Monstre, sur les panneaux d'affichage libres. Et aussi et surtout, on a nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Très simple, c'est Tour Éloquence. Et voilà, c'est vraiment, je pense... nos principaux canaux, et aussi beaucoup, beaucoup de bouche à oreille.
Ok, merci. On va continuer directement, on ne va pas faire de pause musicale. L'éloquence, c'est le don de la parole. C'est la facilité de bien s'exprimer dans la vie quotidienne, l'utilisation d'un vocabulaire assez soutenu. Est-ce que cette éloquence est en train de se perdre dans cette génération ?
Vocabulaire soutenu, ça dépend. Ouais. C'est pas un caractère direct de l'éloquence. L'éloquence, tout à l'heure, on prenait l'exemple du rap, par exemple. On n'est pas forcément sur du soutenu. Maintenant, bon, là, notamment sur le procès de Cléopâtre, on va en effet utiliser un certain vocabulaire. Mais est-ce que l'éloquence se perd ? Elle se renouvelle, si je dois reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Elle se renouvelle, elle se transmet. La question, elle est compliquée, si elle se perd ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis tranché ici ?
Je pense qu'elle ne se perd pas et qu'effectivement, elle se renouvelle. Mais au-delà de ça, en 2024, il me semble bien plus facile d'avoir accès à l'éloquence, à s'entraîner, à s'améliorer qu'avant. Peu importe d'où l'on vient, on a cette possibilité de se renseigner. Aujourd'hui, il y a la notion de l'éloquence, de l'art oratoire partout. On en parle très souvent. Il y a Bertrand Perrier, qui est un avocat qui fait des projets exceptionnels. Kerry James, à nouveau, qui est également très investi. Non, l'éloquence ne se perd pas. Après, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça ne se perd pas. Ça se gagne autrement, mais ça se gagne.
Mais après, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas d'orateur parfait et il n'y a pas un idéal d'orateur. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est que nous, on aide les personnes à construire leur identité d'orateur. Donc, le fait de choisir un certain langage qui soit j'allais dire, plus vulgaire que d'autres. C'est aussi, enfin, on s'adapte au message qu'on veut faire, passer. Typiquement, on voit de plus en plus au niveau des politiques, des personnalités qui malheureux, enfin, j'ai envie de prendre l'exemple des élections américaines, c'est que il y a beaucoup plus de vulgarité pour pouvoir frapper les esprits. Et ça, c'est une technique en art oratoire, c'est avoir des, enfin, vraiment être beaucoup plus efficace, marquer les gens, etc. Donc non, l'éloquence ne se perd pas. Effectivement, comme l'a dit Marc, elle se transforme. Elle se transforme parce qu'elle est propre aux personnes et les sociétés évoluent. Donc, en tout cas, l'éloquence évolue également, mais en aucun cas. En fait, dire que l'éloquence se perd, ça veut dire que la société perd complètement un moyen de communication, ce qui est un peu compliqué, sachant que c'est notre langage, donc un moyen de communication assez primaire.
Et est-ce que l'éloquence est un marqueur social ?
Je pense que l'éloquence est effectivement un marqueur social, pour la simple et bonne raison que lorsque l'on parle, on dit des choses, on apporte des connaissances, un raisonnement, et c'est souvent révélateur d'une éducation. Malheureusement, il y a certains milieux sociaux dans lesquels il est très compliqué d'avoir accès à l'éducation, à une certaine culture, ou alors à une culture qui est différente. Donc ce n'est pas forcément péjoratif, c'est simplement différent. Et donc effectivement, ça peut être représentatif d'un marqueur social. Et donc malheureusement, dans le milieu professionnel, quand on a besoin de convaincre, de s'exprimer, de défendre une idée, ne pas avoir l'éloquence, ça peut être représentatif, ben, malheureusement, de d'où l'on vient, de ce que l'on a, de ce que l'on n'a pas surtout.
Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où en soi, on fait tous de l'éloquence parce qu'on apprend tous à communiquer par la parole, en tout cas dans la majorité des cas. L'éloquence nous aide par contre effectivement à avoir une place dans la société parce que ça nous aide simplement à communiquer, à partager nos idées et à nous montrer en fait en quelque sorte. Mais on peut partir de n'importe quel milieu et arriver à n'importe quelle place en fait.
C'est sûr, c'est un marqueur social que l'on peut dépasser. Simplement, ça me paraît bien plus difficile de dépasser un marqueur social comme l'éloquence quand on n'a pas accès, quand on ne grandit pas justement en sachant ce qu'est l'éloquence. Rien que ça, en fait.
C'est juste que chacun a sa manière de communiquer. Donc, en fait, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu vas avoir une manière de parler, de prendre la parole, et une personne en face va avoir une toute autre manière. Elle va avoir des qualités qui sont tes défauts, et toi, tu as des qualités qui sont ses défauts. Donc, je pense pas que... Ouais, je suis pas forcément très d'accord.
C'est vrai. Non, mais sur cet aspect-là, je suis d'accord. Simplement, quand on vient de deux milieux différents,
pas de la même manière.
Oui, voilà, exactement. C'est ça. On n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, rien que cela. Donc.
Mais même aussi, bah, l'accès à l'éloquence, enfin, nous on y a accès parce qu'on fait aussi des études, mais c'est pas forcément possible pour tout le monde. Il y en a qui ne sont même pas au courant que Tour Éloquence existe parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des études. Donc il y a aussi l'accès, pour rebondir sur Anaïs.
Effectivement, oui.
Et en même temps, ça rejoint un petit peu ce que Anaïs Gaël disait. On a aussi une meilleure accessibilité maintenant en 2024 pour ces outils, pour avoir une meilleure expression orale. Donc un vaste sujet pourrait susciter de nombreux débats.
Prochaine perme de Tour Éloquence. Ça y est, on a un sujet.
Ouais, franchement, oui.
Ok, je vais reprendre la main. On est sur une discipline assez proche du théâtre, puisqu'il faut endosser un rôle. Est-ce que vous considérez que la représentation que vous allez faire le vendredi 15 novembre est une représentation théâtrale ?
Un peu, quand même. Voilà, en partie. C'est-à-dire que bah, là, en fait, oui, certains peuvent littéralement voir ça comme une pièce de théâtre, s'ils ne savent pas qu'il y a de l'impro derrière ou quoi, mais l'impro fait aussi partie d'une pièce de théâtre. J'en ai fait 10 ans et je vois énormément de points communs. Quand on prépare ensemble, on va endosser un rôle. Alors moi, un peu moins marquant que pour les témoins ou encore mieux Anaïs avec Cléopâtre elle-même, on est littéralement dans jouer un rôle. Alors oui, il y a l'art oratoire qui vient après, mais la première chose, c'est d'incarner, c'est de se sortir de nous-mêmes pour rentrer dans
le rôle,
une autre personnalité.
Okay.
Ce qu'il y a de beau dans ce procès, c'est que justement, le discours que l'on va faire, on doit le faire non pas en tant que notre personnalité d'orateur qui est propre à chacun, mais en incarnant notre personnage. Donc quand j'ai travaillé sur Cléopâtre, c'était assez intéressant parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Ça me demande de plaider d'une autre manière. Et c'est ce qu'il y a de beau, c'est ce qu'il y a d'intéressant quand on fait un procès, c'est de faire un discours, être convaincu pour être convaincant en étant quelqu'un d'autre.
Après, je pense que l'aspect théâtre, c'est la forme du procès. Parce que le fond, c'est par exemple construire une argumentation, construire un discours. Donc, on ne peut pas dire que c'est un spectacle, c'est clairement un spectacle, mais ce n'est pas du théâtre, c'est vraiment moitié-moitié, je trouve. En toute modestie, c'est un mélange parfait voilà, entre l'art oratoire tel que l'éloquence pure et le théâtre. C'est vraiment, c'est bien qu'on ne peut pas vraiment faire la différence entre ce qui appartient réellement au théâtre et ce qui appartient à l'éloquence en fait.
Il y a Kerry James qui a été cité tout à l'heure. Est-ce que vous avez un personnage de public contemporain qui vous inspire pour son éloquence ?
Donc moi, à nouveau, c'est Kerry James. C'est un homme qui vient justement d'un milieu social assez défavorisé, qui a su justement utiliser, manier les mots. J'aimerais citer Charles Aznavour, qui a dit que Kerry James manie tellement bien la langue française. Et c'est vrai. Et Kerry James manie tellement bien la langue française. Et puis, il ajoute son style. Il rajoute cette chose qui n'est pas innée, qui n'est pas la chose à laquelle on peut penser en premier, en pensant à l'éloquence, qui rend ce qu'il fait tout à fait intéressant. Et puis, il apporte de l'idée. Donc, il ne parle pas pour parler. Il apporte des choses. Donc, voilà, il y a ses idées personnelles, ses idées politiques. Et puis, il y a un certain constat. Il ose dire ce que l'on n'a pas forcément
envie de dire
tous les jours, ce que l'on n'ose pas dire. Et qu'on soit d'accord ou non, c'est tout à fait audacieux. Et c'est dans l'audace que se trouve la beauté de l'éloquence.
C'est beau, c'est magnifique.
Moi, je rebondis aussi sur la beauté. Il y a être convaincu pour convaincre qui a été formulé tout à l'heure. Comment créer un bon argumentaire pour convaincre ?
Ah. Alors, j'ai eu une séance de mentorat hier sur l'argumentation. Une séance de mentorat, c'est à côté des permanences. On a des adhérents qui s'y connaissent un peu plus en éloquence parce qu'ils en font depuis plus longtemps. Et ils nous permettent de travailler vraiment nos faiblesses dans l'art oratoire. Et du coup, on a notre cher Maximilien qui fait partie des membres fondateurs de l'association, qui est encore là, qui hier m'a donné une séance de mentorat. Comment dire ? Pour construire une bonne argumentation, il y a plein d'éléments à prendre en compte et on n'y pense pas directement. Mais il faut être efficace et rigoureux. Ce sont vraiment les deux premières choses qu'il nous a dites. Et en fait, on peut se baser sur beaucoup de choses. On peut se baser sur à la fois des statistiques, mais aussi à la fois sur des éléments qui réunissent les sociétés. Donc, on va dire des arguments de communauté. Voilà. Tout ce qui est moral, etc. Donc c'est assez vaste finalement de construire une argumentation et je ne suis même pas sûre qu'il y ait réellement une bonne recette. C'est juste qu'il faut être rigoureux et efficace. Pertinent, voilà, c'est ça.
Pertinent, c'est un bon début, effectivement.
Du coup, je vais poursuivre en récitant comme une bonne élève l'enseignement de mon parrain, de mon mentor Louis, qui m'a appris que lorsque l'on fait un discours, il faut être convaincu pour convaincre, mais surtout et avant tout, il faut marquer. Donc marquer les esprits et avoir une bonne argumentation, c'est indispensable, mais marquer, laisser rester dans l'esprit de son auditoire, ça me semble tout à fait nécessaire pour faire un bon discours.
Il y a aussi un juste milieu en fait, à trouver entre une argumentation claire et logique et compréhensible et un fond un peu parfois complexe hein, sur certains, sur certains points. En fait, il y a un juste milieu à trouver pour pas qu'on fasse du compliqué pour faire du compliqué et des grandes phrases pour faire des grandes phrases, forcément, même si parfois c'est une technique très intéressante. En fait, il faut savoir jauger entre différents éléments.
Et vous auriez des techniques pour gérer votre stress ?
Respirer.
Ouais,
c'est un bon début.
C'est très bête comme conseil, mais on oublie souvent, enfin les orateurs, moi aussi d'ailleurs, on oublie souvent de respirer, ou en tout cas de respirer correctement. Et j'ai un ami qui nous a dit qu'en fait, le stress, pour vraiment s'en débarrasser, il nous faut un peu d'adrénaline. Du coup, juste avant un passage, on va courir dans les dans la fac, voilà, on fait un petit jogging déjà, parce que en courant on est obligé de respirer, voilà, sinon c'est très compliqué, et ça nous décharge vraiment de tout notre stress. Après, il y a aussi le fameux conseil de crier, voilà, c'est vraiment on peut penser que c'est idiot et que on veut pas forcément avoir l'air bête, etc., mais justement crier, courir, voilà, ça nous permet de passer au-delà de ce que les gens peuvent penser, ce qui est en fait le regard de l'autre, c'est la principale source de stress. Ce sont vraiment les deux premiers conseils qui me viennent en tête.
Alors, il y a une chose que j'applique, qui est que je prends conscience de la réalité de la chose, qui est que peu importe devant qui je passe, je reste un être humain. Ma valeur n'est pas déterminée par mon passage, un certain passage. À la fin, je vais rester moi. Je ne vais pas changer, je resterai la même. Donc, peu importe ce qui se passe, ça ne va rien changer. Les personnes en face de moi, les personnes qui me jugent, ont aussi leurs faiblesses. Ils ne font pas toujours des choses parfaites. Maintenant, à la fin de la journée, je resterai en vie. Donc, bon.
Voilà. Et quel aurait été le plus gros apprentissage que vous ayez reçu de Tour Éloquence ? Marie-Lou, par exemple.
Ah là là, j'en ai appris beaucoup. par exemple, ne pas s'excuser quand on se trompe. Ça, c'est un truc, vraiment un des premiers trucs que je crois que j'ai entendu à Tour Éloquence. C'était une personne qui avait dû s'excuser. Et on lui a dit, non, tu ne t'excuses pas. Ne pas montrer aussi qu'on s'est trompé. Par exemple, pour nos sélections, on doit préparer un texte qu'on prépare chez nous. Enfin voilà. Et le jury qui est en face de nous n'est pas au courant de ce qu'on prépare. Donc si jamais on se trompe, il ne faut pas montrer qu'on s'est trompé. Parce qu'eux, en fait, ils ne le savent pas. Donc juste, on continue notre truc et puis ça marche. Et aussi, faire des pauses. On parlait du stress. En tant que grande stressée, qui panique beaucoup, pendant mes sélections, justement, à un moment, je ne me suis pas très sentie très bien. Et en fait, j'ai juste fait une pause dans mon discours pour un peu me dire, respire, ça va passer. Et après, je suis repartie et j'allais beaucoup mieux. Donc voilà.
Savoir aussi prendre le temps et s'écouter.
C'est ça.
C'est exactement ça.
On arrive à la fin de cette émission. Le temps de faire un petit point sortie avec l'agenda culturel de la semaine. Qu'est-ce qui va nous faire sortir, Marie ?
Le jeudi 14 novembre, un rendez-vous littéraire avec une conférence sur les nouvelles de Balzac organisée par l'Université du Temps Libre qui fête ses 10 ans cette année. Donc conférence réalisée par Aline Murat-Brunel, spécialiste de la littérature française du 19e siècle et de la littérature contemporaine qui a écrit entre autres deux essais sur l'œuvre de Balzac. L'accent sera mis sur les textes de La Maison du Chat qui pelote, du chef-d'œuvre inconnu et de Sarrazine. C'est à Saint-Cyr-sur-Loire, dans la salle Rabelais de l'espace Jacques Chirac, à 18h. L'entrée est à 5€ pour le grand public.
Le vendredi 15 et le samedi 16 novembre, le Bateau Yves organise le festival des Utopies Réelles qui réinvente l'apprentissage et la transmission des savoirs à travers le documentaire de réalisation. Pour ce faire, des cinéastes, scientifiques et acteurs de terrain se rejoignent sur le projet. 5 films et 5 débats sont à retrouver sur les deux jours, avec un tarif entre 8 et 15€.
Le samedi 16 novembre, c'est la 14e édition de Manga sur Loire de 10h à 19h à Montlouis-sur-Loire, à la salle du Saul Michaud, avec K-pop, concours de cosplay, arts martiaux. L'entrée est gratuite. Et si vous souhaitez prolonger cette journée du samedi dans cet esprit cosplay, ça se passe chez Lati, rue Édouard Vaillant, avec le concert de Death Licorn, un groupe tourangeau d'électro-rock indus qui tournera son clip dans la soirée. Le dress code est donc cosplay, et des masques seront disponibles pour les personnes qui souhaitent rester incognito, si ça c'est pas bien pensé. L'entrée elle est gratuite là aussi.
Le samedi 16 encore, ce week-end, on fête également les 10 ans du 37e parallèle à Tournord, le lieu dédié au spectacle vivant qui accueille de nombreuses compagnies. La programmation de 16 à 1h comprend des spectacles de jonglage, théâtre acrobatique, un ballet cycliste, ainsi qu'un concert combien électro. L'entrée est totalement libre.
Et le dimanche 17 novembre, c'est la convention du disque et de la bande dessinée annuelle organisée par Radio Béton à MAM, donc boulevard Preuilly, de 10h à 19h pour tous les amateurs de vinyle ou de CD collector.
Merci Marie, c'est tout pour l'agenda culturel. On remercie également nos invités pour cette belle émission, qui sont Agathe, Marc, Marie-Lou, Anaïs Gaël, de Tour Éloquence, et on leur souhaite la meilleure des représentations pour ce procès fictif de Cléopâtre qui se déroulera vendredi le 15 novembre à l'Hôtel de Ville.
Donc le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique avec des bisous de Mira et Opinard. Nous vous souhaitons une agréable soirée.
Zoubi.
Ou bien au moins pour la soirée, je ne parle qu'avec ton corps. Et il m'a dit que tu m'adores. On s'était promis que ce serait tout. Ou bien au moins des bisous. Je ne parle qu'avec ton corps. Et il m'a dit que tu m'aimes encore.
Baby, tu t'en pour toi, j'en ai à foison. C'est toi que je voulais toute la saison. Mais ça se complexifie. Et je suis incapable de bien faire. Et je sais que ça peut faire l'affaire. Sans que ton cœur ne finisse par terre. Donc si tu veux, on y va doucement. Ça ira mieux, je ferai ça correctement. Quand c'est plus suave et j'aime ton comportement. Yeah. Donc si tu veux, on y va doucement. Ça ira mieux, je ferai ça correctement. Quand c'est plus suave et j'aime ton comportement.
C'était promis que ce serait soirée. Ou bien au moins pour la soirée. Je ne parle qu'avec ton corps. Et il m'a dit que tu m'adores. On s'était promis que ce serait tout. Ou bien au moins des bisous. Je ne parle qu'avec ton corps. Et il m'a dit que tu m'aimes encore. Ah là là, bébé viens on parle pas là là. Tu n'aimes que moi mais t'es pas là là. J'ai pas lâché la. À toi à la maison. Viens ce soir à la maison. Jeter la théorie dans le feu de l'action. J'en suis à ça d'oublier de faire attention. Attention. Moi je prends tout, je t'interdis rien. On s'en est donné du mal pour faire ça bien. J'aime tes façons, ta gestuelle. Tes yeux qui m'appellent. Moi c'est toi que je veux. Très fort ou lentement. Ça ira mieux pour ton cœur quand je serai dedans. Quand c'est plus suave et qu'on y va doucement.
On s'était promis que ce serait soirée.
Ou bien au moins pour la soirée.
Je ne parle qu'avec ton corps.
Et il m'a dit que tu m'adores. On s'était promis que ce serait tout. Ou bien au moins des bisous. Je ne parle qu'avec ton corps. Et il m'a dit que tu m'aimes encore.